présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il est entré dans l'immeuble où se trouve Traine. Seul à la porte de son appartement. Il a ouvert la Gaudin et lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme lui dit « Je viens. » C'est pour lui donner un renseignement de Paris. Je veux le voir. Attends. On ferme la porte. Reviens. Entre. Il veut bien te recevoir. Il entre. Je ferme la porte. Suis-moi. Et le mec où se trouve Traine. Dans une pièce qui a une chambre, c'est sombre. Traine lui demande « Pourquoi es-tu venu ?» Il me dit « Parce que j'ai une information pour toi. Qu'est-ce que c'est ?»« Ben, je suis venu te la dire de vive voix. Voilà. J'ai rencontré par hasard une vieille. » Poularde, qui a assisté à l'assassinat de ta fille. Terne est surpris et ému. Il demande, alors, L'autre lui dit, eh ben, on sait qui a tué. C'est une femme. Et elle est laissée par mes gardes, gardes de visite. Elle s'appelle Beaulieu. Terne lui dit, je m'en doutais, mais ça ne change rien. Je veux la peau de ce Cliff après de Beaulieu. Je te remercie pour cette information. C'est rien. Terne lui dit, t'as vu la ville? Oui. T'as vu ce que moi, tout seul et avec rien, j'étais capable de faire? Je suis plus fort qu'eux. Avec des milliers de soldats, de matériel, ils n'ont même pas été capables de faire le millième de ce que j'ai fait ici, en Afrique. Ce sont des bons à rien. Et après Lyon, tu verras la suite. Je suis plus fort qu'eux, franc blanc. Ce n'est rien. C'est normal. Ils sont dirigés par des bourgeois qui ne pensent qu'à leur petit confort. Moi, regarde-moi. Je n'ai rien. Et lorsqu'on n'a rien, on peut tout. Parce qu'on n'a rien à perdre. Eux, ils doivent protéger leur fortune, leur bien-être. Moi, je n'ai rien. Alors, je n'ai pas de fortune. Mes plaisirs ne coûtent rien. Mon spectacle, c'est tout ça. Et c'est gratuit. Voilà ma puissance. Ils ne peuvent rien contre moi. Il me dit, tu as raison. Dans leur hôtel particulier, ils sont plus fragiles que toi. Terne lui dit, et leur guerre, quelle foutaise. Et... Elle dit, j'aimerais un peu manger. Terne lui dit, c'est pas un hôtel ici. Bon, bon, j'ai un peu de fromage et de pain. Un jour, fait la connaissance d'un jeune homme grand mince blond, un peu bizarre. Il connaissait déjà un peu, mais il ne lui avait jamais parlé. Il le rencontre dans le couloir. Bonjour, je m'appelle Harold et je travaille ici. Cliff lui dit, enchanté, je m'appelle Cliff. Harold lui dit, venez. Dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. Et Cliff le suit. Asseyez-vous. Le fait asseoir dans un fauteuil. Et Harold se met face à lui. Devant le bureau, tous les deux. Lui pose des questions sur ce qu'il fait, et pendant qu'il parle, il lui caresse les cuisses. Se sent gêné. Il n'ose pas le remettre en place parce que c'est un cadre. Au bout d'un moment, il lui dit, je dois vous quitter, j'ai affaire. Harold lui caresse encore plus les cuisses. Cliff se lève et dit, au revoir, vous voulez pas rester? Non, merci. Il sort en vitesse. Il va au bureau de Judith pour lui dire ce qui est arrivé. Il dit, c'est pas grave, bien grave, c'est Harold. Tout le monde y passe, mais ce n'est pas méchant. Il lui dit, mais moi, je ne veux pas y passer. Elle lui dit, il ne fait rien de plus. Je lui parlerai, ne te fais pas de soucis. Il lui dit, j'ai le lapin, ça me suffit. Sans compter monsieur de Jean-Jus. Judith lui dit, là, monsieur de Jean-Jus, c'est pour te sacraliser. Ce n'est pas la même chose. Toutes les bonnes familles veulent que leur fils aille au moins une fois ou soit remarqué par lui. C'est un honneur. Il dit, vous avez drôle de coutume, vous. Elle lui dit, c'est Paris, Cocteau, etc. Bon, je te laisse. Elle prend son téléphone pour téléphoner à Harold. Allô, Harold, c'est moi, Judith. Je vous téléphone. C'est pour vous dire le petit Cliff. Je sais qu'il est charmant, mais pas touche. Attention, c'est peut-être l'élu. Peut-être, oui. Alors, on risque de faire un sacrilège. Bien. Et Harold ne crée plus dans lui à Cliff. Mais Mademoiselle Lapin court toujours après Cliff dans les couloirs du siège. Chez les Francs Blancs avec Judith. Il y a du monde comme d'habitude et Judith laisse Cliff, elle doit parler à des hommes. Cliff s'ennuie un peu. Tout d'un coup, il voit venir à lui Nathalie. Elle est toujours aussi belle en robe longue rose. Il lui sourit et lui dit « Bonjour, vous vous souvenez de moi ?» Bonjour, vous êtes Nathalie ? Elle lui fait, et vous Cliff, comment allez-vous ? Il lui dit, je suis mon destin, et vous ? Elle lui dit, moi aussi, tenez, je vais vous présenter Gilbert et Julien. Elle le suit, il la suit, je veux dire. Il emmène à Gilbert et Julien, qu'il a déjà vu. Elle leur dit, je vous présente Cliff. Gilbert dit, bonjour. Julien dit, nous connaissons, je crois. Cliff lui dit, oui, nous sommes vus à une soirée comme celle-là. Gilbert lui demande, mais que devenez-vous ? Oh, je suis dans les affaires. Je représente la Francs Blancs et visite les entreprises. Gilbert lui dit, tout doit être très bien. Oui, assez intéressant. Gilbert lui dit, et si nous sortions ensemble de temps en temps, par exemple aller à la campagne, Cliff lui dit, oui, je serais enchanté. Nathalie dit, quelle bonne idée, nous pourrions même faire du vélo. Gilbert dit, oui, donnez à Nathalie votre adresse pour qu'on décide un rendez-vous. Cliff lui dit, merci. Julien dit, je trouve que ces soirées sont dans l'ennuyeux. Et puis dit, moi aussi. Arrive vers eux, François Ducourt. François dit, salut, bonjour Cliff, qu'est-ce que tu deviens ? Je travaille. François lui dit, moi j'ai décidé c'est de quitter la France. Pendant quelque temps en tout cas. Et je pars en Amérique. Et puis demande, et qu'est-ce que tu vas y faire ? Fortune. Gilbert dit, on fait fortune à Paris. François dit, pas pour moi, et ça me convient pas. Didier a reçu une permission. Il rentre en France. Bien entendu, la Franc-Blanc et le gouvernement, qui apprennent son retour, veulent le féliciter. Il doit obligatoirement passer par Paris. Mais avant, Didier veut aller voir sa mère. Il arrive en France en avion spécial Franc-Blanc, qui atterrit à l'aéroport de Lyon. Il prendra le train pour aller voir sa mère. Lorsqu'il arrive à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon, il est reçu avec les honneurs de la ville, la mairie, la préfecture, les membres du gouvernement. On le mène dans le hall de l'aéroport. Dans le hall de la gare, il y a les journalistes, photographes, des discours. Il est félicité par son acte de bravoure et la façon dont il représente la France. Il remercie en disant, pour moi, c'est plus difficile de faire un discours que de me battre. Je dirais simplement merci à vous tous. Et ce que je fais là-bas, ben, ce n'est que mon devoir. À la gare pour qu'il prenne un train pour aller voir sa mère en Pays de Loire. Le train va le mener jusqu'à Paris. Ensuite, il prendra un autre train. Voyage en première classe. Compartiment pour lui tout seul. Le voyage est long et pénible. On l'a apporté de la lecture à Didier, un lecteur DVD, où il peut voir des films grâce à des lunettes. Les films, on a l'impression que c'est des voix dans une grande salle sur un grand écran. On lui a donné des films de DVD de toutes sortes. Il est allé manger au wagon restaurant. Après 10 heures de trajet, il est arrivé à la gare de Lyon. Accompagné d'un homme de la SNCF, on le mène à l'autre train qui va le mener dans son pays. Il est mis dans son wagon. Là aussi, petit, le trajet est long. Très long. Une fois arrivé dans son petit pays, sorti de la gare, épuisé, il prend un taxi. C'est au milieu de l'après-midi pour aller chez sa mère. Arrivé devant l'entrée de chez sa mère, il sonne au portail. Oui, c'est moi, Didier. Oh, monsieur, entrez. Il a poussé le portail et entré. Il est heureux de se retrouver chez lui. Il est très heureux. Tout ce vert le frappe. C'est tellement beau à côté de l'Afrique. Sonne à la porte de la maison émue. La porte s'est ouverte. C'est le domestique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il entre. Ma mère, elle est au salon. Monsieur, il y monte. Il est ému de reconnaître la maison, sa lumière particulière due à la couleur des meubles, de la tapisserie, et donc elle entre dans la maison, son odeur aussi. Frappe à la porte du salon. Entrez. Il entre. Sa mère est là. Elle n'a pas changé. Elle est bien comme il l'a quittée. Elle accourt à lui. Ému, il s'embrasse et lui dit « Enfin, j'ai pas pu te faire chercher, tu m'as pas dit l'heure de ton arrivée. » Il lui dit « T'as pas d'importance, je suis heureux d'être ici. Tu rentres combien, tu restes combien de temps ? Il faut que j'aille à Paris. Hélas, alors, je repars demain soir. » Ils passent leur moment ensemble à s'embrasser. Elle le couvre, lui donne des douceurs. Puis, Il est reparti pour Paris en train. Arrivé à Paris, il a pris un taxi pour aller chez Cliff. Paris lui semble gris, triste. Toutes ces ruines. Il se dit que c'est pire qu'en Afrique. Arrivé devant l'immeuble de Cliff, il sonne à l'interphone. Oui, c'est moi Didier. Entre. Arrivé à l'étage, il sonne. C'est Cliff qui l'ouvre. Et il tend les bras. Je suis heureux de te revoir. Moi aussi. T'as fait bon voyage? Oui. Viens, entre. Et il le mène dans son appartement au salon. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Didier lui dit. Oui, j'ai très soif. Un jus de fruits. Orange? Oui, très bien. Cliff va le lui chercher. Tiens, merci. Et il s'assoit en face de lui. Il lui demande. Alors, la vie de soldat, il lui dit, on s'y fait. Et je te dirais même qu'on est pris par un jeu passionnant. On s'exalte vite et on se prend au jeu. Prévoir ce que l'autre va faire, le pôle devancer et avec précision l'attaquer. Dans la bataille, on en oublie même que l'on risque la mort, parce que la mort fait partie du jeu. Mais c'est pas une définition comme on la comprend. Elle fait partie de l'exaltation du jeu. Éviter la mort, c'est la donner. Voilà le jeu. Bien sûr, c'est dur. On est souvent sur les nerfs, toujours sur les nerfs même. À la fin de la bataille, épuisé, transpirant, c'est terrible. Il lui dit, mon pauvre vieux, tu n'as pas envie de revenir vivre comme avant? Il lui dit, c'est impossible. Ce que je ressens maintenant, la vie d'avant, ça ne pourrait pas aller. Et toi, Cliff dit, moi aussi, j'ai une vie assez mouvementée. Cliff lui dit, oui, tu vois. Il lui dit, je comprends. D'après ce que je vois de Paris, c'est pire qu'en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a de l'espace. Et puis, des ruines comme celle-là, c'est vraiment lugubre. Cliff lui dit, Lyon et Paris, tu ne peux pas savoir, ça m'a beaucoup changé. Je suis heureux que tu sois revenu. Je pense beaucoup à toi, tu sais. Journée me manque. Dieu lui dit, à moi aussi. Dieu lui dit, j'espère que après la guerre, nous pourrons de nouveau être réunis. Moi aussi. Dieu lui dit, la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Tu étais près de moi, à côté de moi, et j'ai senti la douceur de ta joue sur ma joue. Ta joue était contre la mienne. Et tu me demandais si ça allait. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Cliff est heureux et ému de ce qu'a dit Didier. Je me suis réveillé. Un froid glacial était en moi. Et les chouchous me disaient que tu allais mourir. Un cafard terrible me prit. Puis, je me suis remis. Et je me suis dit que c'était une sensation et que j'allais te retrouver. Et puis dit, oui, je suis là et bien vivant. Mais il faut que bientôt enfin, c'est la vie. Il se dit que bientôt le froid de la mort viendra sur lui. Ça lui fait mal. Pas pour lui, mais pour Didier. Didier lui demande, je peux rester le temps que je suis à Paris? Qu'elle lui dit, oui, bien sûr. Tu sais qu'il y a une soirée en ton honneur. Didier lui dit, quelle horreur! Je croyais qu'on en allait simplement chez Franblanc dans son bureau. Écouter 5 minutes ce qu'il avait à me dire et puis c'est tout. Il lui dit, non, il veut faire ça en grand, avec tout le personnel, les gens du groupe, etc. Didier lui dit, je ne veux pas de discours. Et toi, tu resteras près de moi. Il lui dit, je ne crois pas qu'il y ait de discours, mais je te promets de rester près de toi. Bon, je suis plus rassuré. Cliff lui dit. Et puis, tu peux te reposer, tu as le temps, c'est à 21h30. Il lui demande, je m'habille comment? Cliff lui dit, en uniforme, mon vieux. Ça t'ira très bien. T'as fait tout à fait héros. Ils vont aimer ça. Et il lui dit, les héros de salon. Et je lui dis, oui, mais sauf moi, j'aimerais mieux te retrouver comme tu étais. Tu sais, tu étais toujours mon seul ami. Didier ému lui dit, merci. Je croyais que tu allais m'oublier avec tout ce qui t'est arrivé. Et puis, les filles, lui dit, c'est pas la même chose. Et toi, Didier Rouget lui dit, moi, rien. J'ai eu juste une histoire rigolote, sans importance, avec Jean. Cliff rit et lui dit, aussi, c'est le repos du guerrier, cette femme. Didier lui dit, tu sais, tu me sentais vraiment bien. Et puis, mais ça n'a pas été très loin. Avec toi, c'est pas pareil. Tu me sens bien. Mieux que si j'étais près d'un frère. Il lui dit, moi aussi. Il reste un moment sans se parler. Puis Cliff se penche, met les mains sur les cheveux de Didier et lui dit « Il faut te préparer. Et tu vas te reposer un peu. Viens, je vais te montrer la salle de bain. » Entre, c'est ici. Et Didier prend sa douche. Puis, il est allé s'allonger sur le lit de Cliff en caleçon. Cliff s'est allongé près de lui. Il parle de ce qui leur est arrivé et de souvenirs lointains. Puis, l'heure est venue de se préparer. Pour ne pas jouer les goinfres, ils ont mangé un petit quelque chose et sont partis. Didier a gardé son costume militaire. Costume de soldat de brousse, couleur crème. Il ressemble plus à un scout qu'à un soldat. Elle est déjà un peu tendre, mais sans que le vent qui les décoiffe. Ils entendent aussi le bruit au loin des émeutiers. Les rues sont à peine éclairées. On voit surtout les phares, des chantiers, des grues et la lumière de l'immeuble le plus beau du monde, le siège tremblant et bien entendu les flammes des incendies. Didier lui dit, en Afrique, on arrête de se battre la nuit. Il dit, bien ici c'est le contraire. Les rues sont désertes, pas de circulation. Les gens ont peur de sortir le soir. Les émeutes se trouvent dans des rues populaires. Ils arrivent boulevard Velasquez. Là, le boulevard, le parc Monceau est illuminé à cause de la soirée organisée par les Francs Blancs. Il y a déjà du monde sur le boulevard, des voitures en stationnement, beaucoup de voitures luxe et même 75 Rolls. Des policiers, des hommes en noir gardent le boulevard et le parc Monceau. Des hommes, des femmes en tenue de soirée sortent de voiture et se dirigent vers l'hôtel de Francs Blancs qui se trouve près du parc Monceau. Cliff a réussi à se garer sa voiture. Ils sortent de voiture. Didier lui dit, tout ce monde, ça me fait peur. Nous disons bonjour et on s'en va. Il lui dit, c'est impossible, ils sont venus voir le héros. Qui est gêné lui dit, tu restes près de moi alors. Il lui dit, te fais pas de soucis, j'ai l'habitude de ce genre de soirée, ce n'est rien du tout. Allez, viens. Et Didier suit Cliff. Lorsqu'il croise des gens dans la rue, les gens les regardent et parlent à voix basse. Enfin, ils arrivent devant l'entrée de l'hôtel. Il y a des gardes qui passent avec des appareils pour voir s'ils n'ont pas des armes, ou on les fouille aussi. Une fois que c'est fait, personne ne dit rien, parce que tout le monde trouve naturel ce genre de choses. Donc, une fois qu'on a fait le contrôle de la fouille, on passe devant un homme qui est assis à une table avec un ordinateur. Il regarde les cartes et demande le pouce pour voir si la personne est bien celle qui a été invitée. Griff et Didier peuvent entrer. L'hôtel est comme d'habitude tout illuminé. Il y a la musique, les gardes républicains en habit sur les marches des escaliers, garde à vue avec l'épée en l'air. Griff et Didier suivent la foule. Ils voient monsieur et madame Franblanc qui sont près du salon pour saluer leurs invités. Monsieur Franblanc, qui ne fait pas attention pour saluer et tendre sa main molle, tout d'un coup est surpris. Ses yeux s'étaient habitués à voir des hommes en tenue noire. Smoking, et là, il voit un presque enfant habillé en couleur crème, de façon bizarre. Il se sent pris de court, ses gestes se sont arrêtés. Il est comme une machine qui... Il était comme une machine qui disait merci d'être venu à des ombres. Et là, la machine tombe sur quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Elle se bloque. Madame Franblanc, qui attend qu'il lui passe la main suivante, regarde de son côté. Elle le voit. Éberluée, paralysée. Elle reconnaît Cliff et pour remettre en marche la machine, c'est avec ce jeune homme, il lui dit. Vous, madame, il est le roi de la fête, si j'ose dire. C'est Didier Dupin, le jeune héros. Madame Franblanc fait. Oh oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Elle voit que son mari reste toujours bloqué. Et son blocage bloque la chaîne des invités qui ne peuvent avancer. Elle lui tapote la main et lui dit. Mon cher, ce jeune homme est celui que nous attendons, le jeune héros, Didier Dupin. Le Franblanc sort de sa paralysie. Oui, bien sûr, enchanté jeune homme. Madame Franblanc dit à Didier. Il faut lui pardonner, c'est le surmenage. Didier rit et dit à Cliff. Ça m'est tout à fait, ça m'a tout à fait de ne pas être reconnu. Ça va parfaitement bien. Et il se mélange à la foule. Le pauvre Didier, comme il est habillé, ne peut ne pas être aperçu. On demande qui il est et l'on sait. Alors on va vers lui. On le félicite, on lui demande des autographes. Mademoiselle Lapin est là avec la femme à tête de cheval. La femme à tête de cheval dit. Vous savez, Cliff, laissez-moi ce petit soldat. Mademoiselle Lapin dit. Mais, et Jacques? Je ne sais pas où il est. La hémorroïde. Il doit être au petit coin. Tout le monde prend Didier pour un héros. Il est tellement entouré que la dame à tête de cheval ne peut l'approcher. Cliff reste près de lui. Toutes les jeunes filles veulent être près d'eux. Est là et dit à tout le monde devant le pauvre Didier. Il se bat pour défendre le monde occidental. Oui. applaudit. Cliff dit, oui, mon ami se bat pour nous. Une jeune fille blonde dans les 20 ans, robe longue bleue, dit pour l'ennuyer, il se bat à votre place, à la place des planqués comme vous. Cliff dit, vous avez raison. Elle lui demande, et quand irez-vous vous battre? Cliff lui répond, quand ce sera vraiment nécessaire, on a besoin de moi ici. Il y est gêné des attaques que l'on fait contre son ami. Il dit, sans les larmes, on ne peut pas se battre. Et puis, vous, vous avez besoin d'hommes ici aussi, avec toutes les attentats qu'il y a en France. Tous les hommes valides sont partis, comment feriez-vous pour sortir? Cette soirée n'a lieu qu'avec l'homme, avec les hommes qui nous vous protègent. Elle n'a pas dit. Il a raison. Et puis Cliff, on en a tout besoin au siège. Il lui dit, Cliff fait un travail ingrat et sans prestige, mais c'est plus indispensable que le mien. Moi, je ne fais que me battre. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Judith dit, ils sont tous les deux délicieux. Elle leur dit, ne faites pas attention à ces idiots qui s'évanouiraient à la vue de la première égratignure. Et lui sourit. La soirée continue. On présente Cliff. À Gilbert, Julien et Nathalie qui présentent Didier. Monsieur Framblant et Madame qui ont entendu ce qui a été dit passe devant les invités en disant du bien de Didier et de Cliff. C'est un garçon remarquable. On présente Didier à Harold qui est tout retourné. Il dit, oh mon Dieu, j'ai envie de m'engager dans votre armée. Voyons, comme ça, comme les soldats sont bien habillés. Cliff rit. Didier confus ne sait que dire. Didier lui dit un mot à l'oreille et s'éloigne. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.